pour prier avec nos frères et sœurs, pour faire monter vers toi nos requêtes, nos supplications ensemble, mais aussi, Seigneur, pour porter les fardeaux les uns et des autres. Et nous voulons maintenant que tu disposes nos cœurs à l'écoute de ta parole, que tu nous conduises par ton Esprit Saint, que tu nous aides à comprendre ta parole et que tu disposes nos cœurs dans l'obéissance à ta parole, pour la gloire de ton nom. Amen. Amen. Voilà, je vous invite à ouvrir votre Bible dans Jean chapitre 15. Alors les femmes, vous avez lu Jean chapitre 15, mais en fait, entre-temps, j'ai changé d'idée et les hommes, on a lu autre chose. Hein. Mais bon, à la fin, on aura lu ensemble la même chose. J'ai des petits papiers pour vous. Hein. Donc, peut-être on peut distribuer. J'en ai fait une trentaine, mais il y en a encore quelques-uns là-haut. Une feuille par personne. Merci, Jérémy. Je pense que c'est bon. Avec des petits trous. Et quand il y a des trous sur la feuille, c'est pour que vous puissiez garder vos yeux en face des trous. Hein. Ne pas dormir. Donc, vaut mieux garder vos yeux sur les trous de la feuille, comme ça, en même temps, vous allez pouvoir être éveillé. Alors, on est en train d'étudier les « Je suis » de la parole de Dieu. Et il y en a dans l'évangile de Jean en particulier, et les « Je suis » de Jésus. Hein. Donc, il y en a combien ? Sept. D'accord. Alors, est-ce qu'on peut les dire un peu dans l'ordre, encore une fois? Le premier, c'est « Je suis le pain de vie ». On trouve dans Jean chapitre 6, d'accord? Donc, je crois que c'est verset 32, quelque chose comme ça, mais en tout cas. Ensuite, le second, « Je suis la lumière du monde », et c'est dans Jean chapitre 8, d'accord? Verset 12, « Je suis la lumière du monde ». « Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Ensuite, le prochain qu'on a vu, le troisième, c'est « Je suis la porte ». Et ça se trouve dans l'évangile de Jean aussi, bien sûr, au chapitre 9, je crois. C'est pas 9? C'est 10? C'est Jean 19? Alors, ou Jean 9, 10? Regardez, cherchez, trouvez. 19, d'accord. Jean 10, chapitre 9, donc c'est 10. Et ensuite, je suis le bon berger, c'est aussi Jean, chapitre 10, d'accord? Et au verset 11. Et après cela, on a vu la résurrection et la vie, Jean, chapitre 11, d'accord? Après cela, on saute quelques chapitres, on va jusqu'au chapitre 14, et on trouve, je suis le chemin, la vérité et la vie. Et puis celui qu'on n'a pas encore vu, c'est le chapitre 15 que vous avez lu. Et c'est « Je suis le cep ». Je suis le vrai cep. Il n'a pas dit « Je suis le cep », mais il a dit « Je suis le vrai cep ». Alors on va lire ensemble ces quelques versets. On va lire peut-être les cinq premiers versets, l'évangile de Jean, chapitre 15, et peut-être Samuel, tu peux lire, s'il te plaît, Jean 15, versets 1 à 5.
Je suis le vrai cep, mon père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il l'éponge afin qu'il porte encore plus de fruit. Déjà, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit, s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez pas non plus si vous ne demeurez en moi. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi vous ne pouvez rien faire.
Voilà, donc je suis le vrai cep. Donc encore là, c'est une image agricole que le Seigneur Jésus utilise. Ah, vous avez déjà vu ça, certainement, hein? Hein, ça rappelle déjà, c'est l'époque un petit peu, hein? Si vous vous promenez dans les vignobles, vous pouvez voir ça, mais surtout au mois de septembre, par là, hein, on fait ce qu'on appelle les vendanges. Qui a déjà fait des vendanges dans sa vie? Personne? Moi, j'ai fait ça. Hein? Oui. J'ai fait les vendanges à Bordeaux. Hein. J'étais à Bordeaux, donc c'est une ville où on connaît bien les vignobles. Hein. Bien, c'est très fatigant, très épuisant, hein, parce que c'est à l'époque qu'on avait les hottes, là, si vous avez les grandes hottes sur le dos, et puis on remplit ça de raisins, on passe dans les allées, en tout cas, il y a les gens qui coupent les grappes, qui mettent dans la hotte, dans le dos, et puis une fois que c'est rempli, on va jusqu'à la camionnette, là, la benne, pour monter une petite échelle, et on se plie comme ça pour pouvoir vider la hotte. Et on recommence toute une journée. Et quand je suis parti de là, j'avais un jeans, le jeans il tenait tout seul debout, hein, avec le sucre du raisin qui avait au bout de la journée, hein, un peu séché, durci, et le jeans pouvait tenir tout seul debout, tellement c'était trempé avec du jus de fruits, quoi. Hein. Donc c'est quelque chose qui est assez épuisant, mais ça aussi c'est une belle expérience. Hein. Et la Bible parle beaucoup de la vigne, des vignes. C'est une image qui est très utilisée ici dans la parole de Dieu. Alors bien sûr, c'est le dernier je suis que nous allons voir. Et qu'est-ce que Jésus affirme quand il dit je suis? Je crois que je vous ai mis. Reste encore du papier. Il faut voir vos questions un peu quand même. Qu'est-ce que Jésus dit quand il. Qu'est-ce qu'il dit par ces expressions-là? Je suis. Il affirme quoi, à votre avis? Je suis le pain, je suis le bon berger, je suis le chemin, la vérité et la vie. Il affirme ça. Oui, mais plus sa divinité. Sa divinité. Quand il dit, je suis la résurrection et la vie, je suis le chemin, il est le seul sur tout l'univers, hein, qui peut accomplir une telle chose. Il affirme sa divinité. Il dit, je suis, il dit pas, je suis un chemin, il dit pas, je suis un berger, il dit pas, je suis une vie ou je suis un type de cep, il dit, je suis à chaque fois le chemin, la vérité. La vie. Donc, il affirme en deuxième lieu quoi ici? Ça, il est au centre du truc. C'est lui ou rien. Moi, ouais, sa centralité. On pourrait dire ça comme ça. Hein. Il affirme sa centralité. Et puis le dernier, vous avez trouvé. Et comme il dit, je suis, ça veut dire qu'il n'y a pas en dehors de lui quoi que ce soit. Donc, il affirme ça toute puissance. On pourrait dire, mais plus que cela, on peut être puissant, mais pas seul. Suffisance. Ça, toute suffisance. Il affirme aussi sa toute suffisance ici. Et donc la métaphore de la vigne, c'est vraiment très parlant pour les disciples. On va pas lire tous les textes, mais vous vous souvenez que Jésus a raconté d'autres paraboles qui parlent de vignerons et de vignes dans l'évangile de Matthieu, Marc, et puis aussi dans l'évangile de Luc. Mais c'est une image qu'on retrouve aussi dans l'Ancien Testament, et beaucoup. Et si vous lisez, on va regarder quelques-uns après, mais Jérémie 2, 21 ou Ésaïe 5, une bonne partie du chapitre 5 d'Ésaïe, et le psaume 80 que nous avons lu tout à l'heure avec les hommes, eh bien, il était question aussi de vignes. Alors Jésus, bien sûr, il affecte une image, quand il prend l'image du vignoble, il parle de trois choses en particulier. Il parle du cep, il parle de quoi ? Du vigneron et puis des sarments. Pas des serments, des sarments. Hein. Pas des sermons non plus. Hein. Des sarments. Alors, juste là, vous allez remplir les petites cases. Hein. Le cep, c'est qui? C'est Jésus. Le vigneron, c'est Dieu le Père. D'accord? Et les sarments, précisément, c'est les disciples ici. Hein. C'est les disciples. Bien sûr, ça englobe aussi les chrétiens. Alors, on va considérer une première chose ici, bon, le fait que Jésus parle et qu'il dit « Je suis le vrai cep » ici. Donc, quand il dit ici « Je suis le vrai cep », vous avez déjà vu des ceps? Je ne sais pas si on voit bien. Ça c'est un cep. Hein. Le cep, c'est la partie, le bois tordu là qu'on voit souvent dans les vignes. Hein. C'est pas très joli à voir tout seul, surtout quand il n'y a pas de feuilles et de grappes de raisin. Ça a l'air d'un truc qui est extrêmement tourmenté. Hein. C'est assez bizarre. Hein. Mais bon, c'est ça qu'on appelle le cep. Mais quand Jésus insiste, il ne dit pas simplement qu'il est le cep, mais il dit « je suis le vrai cep ». Et en fait, l'emphase est mise ici sur le vrai cep. C'est ce qu'il veut signaler. Et quand il dit « je suis le vrai cep », eh bien, le vrai cep, ce n'est pas pour s'opposer à un faux, mais c'est pour s'opposer à une pleine réalité. Quand il dit « je suis le vrai cep », il dit « je suis le cep réel, pleinement réel ». Je ne sais pas si on peut dire ça comme ça. Donc, le vrai ici, il ne faut pas le prendre comme le contraire du faux, des vrais cep et des faux cep, hein, mais comme celui qui est la réalisation du cep. Comme, par exemple, en Jean, je vous ai mis ici, Jean chapitre 1, verset 9, l'apôtre Jean, oui, il écrit, en parlant de Jésus, il dit « cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme ». Et quand il disait « c'était la véritable lumière », il ne voulait pas dire que les autres lumières sont des lumières fausses. Celle qui éclaire notre tête ici, c'est une vraie lumière. D'accord ? Mais il exprime qu'il est cette lumière qui va vraiment, lui, par contre, éclairer spirituellement. Il est la lumière par excellence. Donc on voit, c'est un petit peu ce sens-là qu'on trouve aussi dans Jean 6, 32, quand il dit « je suis le vrai pain », ou dans Hébreu 8, quand il parle du vrai tabernacle. D'accord ? Qui ne veut pas dire que l'autre était un faux, mais c'est le tabernacle l'aboutissement final de toute chose. Donc ça, c'est la première chose. Deuxièmement, aussi, il dit qu'Israël, c'est la vigne de Dieu. D'accord ? Israël, dit-il, est la vigne de Dieu. Donc nous allons regarder un texte dans Ésaïe chapitre 5. Donc, je vous demande de prendre ce texte, si vous pouvez, Ésaïe chapitre 5, et nous allons lire les versets 1 jusqu'au verset 7. Ésaïe chapitre 5. Si quelqu'un là, vous lisez, celui qui l'a lit. Ésaïe 5, 1 à 7, pardon.
Qu'y avait-il encore à faire à ma vigne que je n'ai pas fait pour elle? Pourquoi, quand j'ai espéré qu'elle produirait de bons raisins, en a-t-elle produit de mauvais? Je vous dirai maintenant ce que je vais faire à ma vigne. J'en arracherai la haie pour qu'elle soit broutée. J'en abattrai la clôture pour qu'elle soit coulée au feu.
Merci. On a lu jusqu'au 7, oui.
Il avait espéré de la droiture, et voici du sang versé, de la justice, et voici des cris de détresse.
Voilà, merci. Donc là, on voit, on lit tout cela, hein. On lit tout ce que cette vigne devait faire ici, et puis finalement, le passage se termine avec la désignation de qui est la vigne ici. Qui c'est qui est la vigne? C'est Israël. Donc Israël est appelé dans l'Ancienne Alliance, dans l'Ancien Testament, la vigne de l'Éternel. C'est-à-dire, c'est par Israël que les autres nations, il le dit quelque part d'autre, que les autres nations devaient être amenées à la connaissance de Dieu. C'était le plan qui devait représenter vraiment Dieu dans ce qu'il est et être une lumière auprès des autres. Mais on voit ici qu'Israël a failli. Et la vigne, au lieu de donner du bon raisin, elle a donné de mauvais. de mauvais. Et donc ici, quand Jésus dit « je suis le vrai cep », les Juifs qui entendent ça, ils font tout de suite le rapprochement avec Israël. Nous, peut-être pas, mais eux, ils savent que dans l'Ancien Testament, Israël est appelé la vigne de l'Éternel. Et Jésus vient et dit « moi, je suis le vrai cep, la vraie vigne ». Et donc, quand il dit cela, il se compare, il parle en opposition avec ce qu'a été Israël, ici. Donc, je vous l'ai mis ici. C'est avec Israël, en tant que vigne, que Dieu établit le contraste. Alors, on voit dans le passage qu'on a lu que Dieu a pris, quoi ? Verset 4. Il a pris soin. Il dit, « Qu'y a-t-il encore à faire à ma vigne que je n'ai pas faite pour elle ?» Et que Dieu a pris soin d'Israël. Il s'en est occupé, hein, comme un viticulteur s'occupe vraiment de sa vigne. Mais cette vigne a produit, qu'est-ce qu'il dit ici? De mauvais fruits, de mauvais raisins, des raisins aigres. D'autres traductions disent des raisins aigres, hein. Elle a produit de mauvais raisins. Et Jérémie, on trouve à d'autres endroits encore, Osée aussi dit la même chose. Jérémie, chapitre 2, verset 21, on peut lire ça. Quelqu'un a rapidement Jérémie 2, 21. Et note, relevez juste ce qu'il dit de la vigne, et puis on va le noter ici. Quelqu'un là peut le lire ? Voilà. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Une vigne que Dieu avait plantée du meilleur plan, et qu'est-ce qu'elle a fait quoi? Quel est le mot qu'il utilise? Dégénéré. D'accord? On pourrait noter ça, hein. Il dit, cette vigne a dégénéré, ici. Et donc, la vigne choisie par Dieu a dégénéré et n'a jamais rempli la mission de bénédiction pour les autres nations qu'elle était supposée remplir, hein. Par exemple, je vous lis Osée, chapitre 10, verset 1, qui dit, Israël était une vigne féconde. Beaucoup de fruits. Plus ses fruits étaient abondants et plus il a multiplié les autels. Plus son pays était prospère et plus il a embelli les statues. Il dit voilà, c'était une vigne d'un bon plan, mais qui a dégénéré, qui est partie dans l'idolâtrie. Au lieu d'aider, d'être là pour être une lumière pour les autres nations, eh bien, elle est plutôt tombée dans l'idolâtrie. Alors, bien sûr, après, avec cet arrière-plan-là, Jésus vient et il dit, je suis le vrai cep. D'accord? Donc, on peut voir déjà un petit peu en quoi est-ce qu'il sera le vrai cep. Donc, c'est en contraste avec Israël qui n'a pas porté de bons fruits qu'il se dresse. Et on sait que Jésus, lui, il a dit que le Père ne me laisse jamais seul parce que je fais toujours ce qui lui est agréable. Il y a un verset qui dit cela. Jésus dit, je fais toujours ce qui lui est agréable ici. Donc Jésus est la vraie vigne, on peut mettre comme ça, ou le vrai cep. Hein. Et le vrai cep sera la bénédiction, bien sûr, des nations. Il va maintenant pouvoir être celui qui va révéler Dieu tel qu'il est, être la vraie vigne qui va porter du fruit, et du fruit excellent, pour que les nations puissent être bénies. Donc, il accomplira toute la volonté de son Père. Donc, ça, c'est pour ce que Jésus dit, juste en tout cas au début, je suis le vrai cep. Deuxième image qu'il utilise, c'est le vigneron. Alors, verset 2, il dit, tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il le retranche, et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde afin qu'il porte encore plus de fruits. Et donc là, c'est l'image du vigneron. Alors le vigneron, qu'est-ce qu'il a? Il fait quoi, Jésus dit ici? Il fait deux choses. Il fait quoi? Il retranche, il va retrancher, et puis aussi, qu'est-ce qu'il va faire? Il va émonder, d'accord? Donc retrancher et émonder. Alors c'est pas la même chose tout à fait. Retrancher. Alors, on va commencer avec le second, peut-être, et puis ensuite on va revenir un peu sur le premier. Alors, le vigneron, vous pouvez mettre ici les pointillés. Il émonde et il il retranche. Donc les sarments qui portent du fruit, qu'est-ce qu'il fait avec les sarments qui portent du fruit? Il les émonde. Alors, émonder, ça a le sens, c'est quoi? Quelqu'un peut dire c'est quoi émonder? Ceux qui font un petit peu de jardinage à la maison, c'est... Voilà, il taille, hein? Il coupe, il enlève, un peu comme il fait ici, avec quelques feuilles. Parfois, on peut couper ici. Donc, ça a le sens de... Le mot veut dire purifier et nettoyer. D'accord? C'est ce que ça veut dire, émonder, purifier et nettoyer. Donc, vous pouvez le mettre, si vous voulez, sur votre petit papier. Donc, c'est un acte, on pourrait dire que l'émondage est un acte d'amour, hein, un peu, du Père qui vise clairement quoi? Qu'est-ce qu'il vise, cet acte d'amour? Ouais, on pourrait dire la sanctification. Qu'est-ce qu'on pourrait dire encore? Quand on taille, quand on émonde, c'est pour favoriser quoi? La croissance. Hein? À la maison, des fois, je passe un coup de sécateur, mais vraiment très très fort sur certains arbustes. Puis il y a Ketia qui dit, oh non, mais c'est vilain, c'est pas joli comme ça, tu as enlevé toutes les feuilles, on voit tout devant. Je dis, attends, tu vas voir que ça repousse, ça va bien repartir. Hein? Alors des fois, j'ai raté, hein? Mais la plupart du temps, c'est vrai, ça repart. Hein? Quand on taille, parfois il faut des tailles sévères pour que ça puisse bien repartir. Et la Bible dit ici que tout sarment qui porte du fruit, qui est un moi qui porte du fruit, qu'est-ce qu'il fait? Il l'émonde afin qu'il fasse quoi? Qu'il porte encore plus de fruits. Donc, pour qu'il soit beaucoup plus fécond. C'est le but pour lequel le vigneron, en tout cas, il vient émonder. Où est-ce que je suis là? J'ai perdu ma page là. Voilà, au bas de la page 1, on est, c'est ça. Hein? Donc voilà, donc je reprends. Donc, l'émondage est un acte d'amour du Père qui vise clairement à la croissance du disciple. Et on peut retrouver cette vérité-là dans Hébreux. On en a parlé dimanche même, il me semble. Hein? Hébreux chapitre 12, verset 10, où il dit « Nos pères nous châtiaient pour peu de jours comme ils le trouvaient. Bon, mais Dieu nous châtie pour notre bien afin que nous participions à sa sainteté. » Donc, c'est un acte qui souligne vraiment la volonté de croissance. Ah, mais c'est quelque chose en même temps qui fait souffrir. Émonder, ça fait souffrir. Le mot qui est utilisé, qui est traduit par émonder, ici, vous allez reconnaître, c'est un mot duquel on a tiré le mot en français catharsis. Vous savez ce que c'est que la catharsis? Non? Vous n'avez jamais entendu parler de la catharsis? C'est cathartique. Quand on dit que quelqu'un fait quelque chose qui est cathartique, hein, ça veut dire que ça permet de, quelque part, de soulager. Alors, dans le dictionnaire, il dit, c'est toute méthode thérapeutique qui vise à obtenir une situation de crise émotionnelle telle que cette manifestation critique provoque la solution du problème. Alors, on faisait ça à l'époque de Platon dans les pièces dramatiques, quoi. On faisait des choses qui vont pouvoir susciter une émotion vive, mais en même temps, ça va pouvoir soulager les gens. Donc, quand on va venir couper, tailler la vigne, ça va blesser quelque part. Hein. Ça va faire mal, ça va créer une crise. Mais cette crise aura pour effet de faire pousser davantage. Hein. Un petit peu le sens du mot. Donc c'est vrai que tout châtiment, ça semble une affaire de tristesse, comme dit l'auteur de l'Épître aux Hébreux, mais plus tard il produit, il dit, hein, du fruit. Hein. Il produit du fruit. Et c'est ce que fait le Père, et il le fait avec amour. Parfois, ça fait mal, dit Jésus, mais il le fait avec amour parce qu'il a dans l'optique que les sarments qui portent du fruit ne stagnent pas, mais portent encore davantage de fruits. Ça, c'est pour les sarments qui portent du fruit. Après, il parle des sarments qui ne portent pas de fruits, avant même, plutôt. Et qu'est-ce qu'il dit pour les sarments qui ne portent pas de fruits? Il les retranche. Alors, vous avez tous retranche dans votre Bible, c'est ça? Oui? Retranche. Alors, retrancher ici, c'est un mot qu'on peut traduire par enlever, il l'enlève, Aussi. Ou aussi, on peut le traduire par élever, il élève. Donc, il y a ces deux utilisations dans la Bible, deux mots. Ce n'est pas la même chose. Donc, il y a un sens qui voudrait dire couper, ôter, mais ce mot peut être traduit aussi par élever. Il y a d'autres versets bibliques qui utilisent le même mot et le sens, c'est élever. Et là-dessus, parfois, les spécialistes ne sont pas d'accord parce qu'il y a toute une question qui se pose là-dessus. Parce que est-ce que le sarment, c'est l'idée que l'on se pose, est-ce que le sarment, c'est le chrétien qui ne porte pas de fruits et que Dieu retranche, qu'il enlève? Ou certains pensent, est-ce que le sarment, c'est bien le chrétien qui ne porte pas de fruits, mais que Dieu va plutôt élever, un peu comme le fait le viticulteur qui va peut-être enlever quelques feuilles, soulever la grappe, le sarment qui a tendance à toucher le sol pour qu'il puisse voir le soleil, qu'il puisse avoir des fruits qui poussent. Hein. Mais je crois que communément, la plupart du temps, l'idée d'enlever, vraiment de couper pour enlever, surtout la proximité du verset 8, du verset 6, si vous regardez le verset 6, qu'est-ce qu'il dit? Dans Jean 15, verset 6, il dit, ou Jean chapitre 15, verset 6, il dit, « Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment, et il sèche, puis on le ramasse, et on le jette au feu, et il brûle. » Et ça peut pas être la position d'un croyant, d'un chrétien. Parce que la Bible aussi, parallèlement, enseigne la sécurité éternelle du chrétien. Quand on est un enfant de Dieu, eh bien, Jean chapitre 10, verset 28, dit que les brebis sont dans la main du Père et que nul ne les ravira. D'accord. Donc, on peut admettre ici que probablement les sarments qui sont coupés et jetés peuvent représenter des personnes qui, pour un temps, se sont associées, ont suivi, mais qui, dans le fond, n'ont pas eu de réelle communion avec Dieu. Et on trouve par exemple dans Jean chapitre 2 verset 22 où il dit que plusieurs crurent en Jésus, mais lui savait ce qui était, qui était dans l'homme, donc il ne se fiait pas aux hommes parce qu'il savait ce qui était dans l'homme. Et puis en Jean 6, je crois 65 66, quelqu'un peut lire ça? Jean 5 65 66. Jean 6, pardon, oui.
Il ajouta, c'est pourquoi je vous ai dit que nul ne peut venir à moi si cela ne lui a été donné par le Père. Dès ce moment, plusieurs de ses disciples se retirèrent et ils n'allaient plus avec lui.
Voilà, donc là on parle de disciples, de personnes qui suivaient, mais qui à un moment donné s'écartent et puis ne vont plus avec Jésus. Et puis l'apôtre Jean parle de personnes, vous rappelez, j'ai pas repris la référence, mais dans les épîtres, là, je crois que c'est la première épître, hein, il parle de personnes qui sont sorties d'eux, il dit, ils sont sortis de nous, mais ils n'étaient pas des nôtres, et s'ils avaient été des nôtres, ils seraient demeurés avec nous. Donc des gens qui marchent pour un temps, hein, ça fait penser à la parabole des terrains, quand Jésus parle de ceux qui croient pour un temps, mais dans laquelle la foi est très 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 faible et puis qui après s'en vont. Et il dit tôt ou tard, ces personnes sont retranchées. Et l'idée ici, parfois, on peut penser, certains pensent ici qu'ils pouvaient quelque part en même temps parler de Judas, qui n'était plus à ce moment-là et qui était déjà retranché. Parce que lui, effectivement, il a été choisi par le Seigneur. Il a été envoyé par le Seigneur avec la capacité de faire des miracles comme les autres. Mais finalement, la Bible dit que Jésus dit qu'il était le fils de perdition et il a été retranché. Donc il dit tout sarment qui ne porte pas de fruit, il l'enlève, il le coupe, et puis celui qui porte du fruit, il l'émonde afin qu'il porte encore plus de fruits. Donc le sarment qui ne porte pas de fruit représente ceux qui ont une adhésion vraiment superficielle et qui ne sont pas vraiment attachés au cep. Ils n'ont pas reçu réellement la vie de Christ, la vie du cep. Alors ensuite, alors ça je l'avais écrit ici, je sais pas si vous voulez, j'ai pas mis sur votre papier. Donc tous les sarments, on peut dire ici, subissent une intervention du vigneron. Vous voyez ça? Qu'ils soient des sarments qui portent du fruit ou des sarments qui ne portent pas du fruit. Le père, le vigneron, qu'est-ce qu'il fait? Il retranche des sarments et il émonde d'autres sarments. Mais il n'y a aucun sarment qui ne reste sans intervention divine. Aucun homme ne restera sans l'intervention de Dieu. Il interviendra, il jugera. Alors, soit il émonde ses enfants pour qu'ils portent encore plus de fruits, puis il y en a d'autres qui seront condamnés, comme le verset 10, ils seront jetés dehors. Alors, qu'est-ce que j'ai fait là? Ici, les sarments maintenant. Alors, le point petit c, avant ça, pardon. Ici, la parole de Dieu, il dit ici verset 3, « Déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. » Alors, Jésus dit que le Père, il émonde pour qu'il puisse porter plus de fruits. Et probablement ici, il donne quel est l'instrument par lequel il émonde, si on pourrait dire. Hein. Et c'est quoi là? C'est la parole de Dieu. Donc, la parole de Dieu est le quoi de Dieu? Pour rester dans la métaphore viticole, hein, le vigneron, il fait quoi? Il va couper. Donc, c'est le sécateur. Hein. J'ai mis comme ça. Bon, vous n'êtes pas obligé de le mettre si le mot vous gêne, mais la parole de Dieu, c'est le sécateur de Dieu. Ça s'écrit comme ça se prononce. S-E-C-A-T-E-U-R. Je ne l'ai pas mis ici, ça, ce point-là. Donc, elle est désignée à plusieurs endroits, la parole de Dieu, comme un agent purificateur. Donc, ça, vous pouvez mettre. Donc, la parole est désignée dans l'Écriture comme un agent purificateur. Purificateur. Psaume 119, verset 9, dit « Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier ?» C'est comment ? En se dirigeant d'après ta parole. Et donc, on trouve beaucoup de passages comme ceux-là où la parole agit comme élément purificateur. Vous avez des versets qui vous viennent à l'esprit ? Oui, ça c'est juste celui qu'on vient de lire, là, ici, 17-17, oui, sanctifie-les par ta parole, par ta parole est la vérité. Donc là, il y a ce côté purificateur, le côté un peu sécateur, qui coupe, qui tranche. Hébreu, très bien, oui. Donc ça trouve dans Hébreu 4, 12. D'accord. La parole, je l'avais noté, la parole de Dieu est vivante, efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Donc, on voit vraiment cet effet de la parole. Et puis, dans les armes que l'apôtre Paul donne dans Éphésiens chapitre 6, il dit que la parole, c'est l'épée de l'esprit. Donc, la parole est vraiment l'agent que Dieu utilise pour purifier, que l'esprit même utilise pour purifier. Alors, on continue. Troisièmement, ici, on va regarder quel est le secret donc de la fécondité spirituelle. Parce que Jésus parle du fait qu'il est le vrai cep, mais il ne fait pas que se désigner lui tout seul. Qu'est-ce qu'il fait? Il va parler de ses disciples et de la relation que l'on peut avoir avec le cep. Donc, j'ai un petit point ici. Bon, là, je passe vite. J'avais mis quelque chose. C'était pour vous montrer un desserrement tout sec sans fruits. Et puis ici, desserrement plein de fruits. J'aime beaucoup voir ces images parce que je trouve que c'est mieux qu'un cerisier. Un cerisier, ça a beaucoup de feuilles. Puis ça peut avoir beaucoup de fruits. C'est chargé, mais bon, mais ça, même quand il est chargé, ça peut passer un peu inaperçu. Par contre, ici, quand on regarde les vignes, ça, on a une image de l'abondance du fruit. Hein. C'est des grappes qui pèsent, et puis il y en a plein. Il y a déjà dans une grappe, il y en a plein, et puis il y a plein de grappes. Hein. Donc, on a vraiment cette idée de l'abondance, d'être vraiment fécond quand on regarde la vigne. Mais on peut être, Jésus dit, ou comme ça, ou comme ça. Quand c'est comme ça, eh bien, on prend du sécateur qui tranche. Et quand c'est comme ça, on prend du sécateur avec de la coupe chirurgicale. hein, juste là où il faut pour qu'on puisse grandir ici. Donc le secret ici d'une fécondité spirituelle abondante. Le verset 4, donc j'ai mis un peu 4 et 5 ici, dit « Demeurez en moi et je demeurerai en vous, comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez pas, vous le pouvez non plus, si vous ne demeurez en moi. Je suis le cep, vous êtes le sarment, celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi vous ne pouvez rien faire. » Qu'est-ce qui revient souvent ici? Demeurer. Combien de fois? J'ai noté. Une fois. Deux fois. Trois fois. Quatre fois. Cinq fois. Six fois. D'accord? Ça, c'est juste dans ces versets. Mais si vous lisez jusqu'au verset 17, je pense qu'il y en a autant. Hein? Presque. On comprend bien que ce que Jésus est en train de dire ici, c'est qu'il est le vrai cep. Et que ce que cela sous-entend, c'est qu'il faut demeurer en lui. Absolument. Il faut demeurer en lui. Mais il y a autre chose qui apparaît aussi. Ce que vous voyez ici. Là, ça va être que deux fois, mais dans la suite, un petit peu plus. Voilà, c'est porter du fruit. Et ici, regardez, porte beaucoup de fruits. C'est intéressant parce que au début il dit si tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il le retranche. Mais tout sarment qui porte du fruit, il le retranche afin qu'il porte quoi? Plus de fruits. Et il dit que s'il demeure, il porte beaucoup de fruits. Donc, on voit ici, il y a cette progression et Jésus insiste aussi sur ces deux choses. Il y a le fait de demeurer en lui et le fait de porter du fruit. Et le fait de porter du fruit, ça va jusqu'au verset 17. Je lis le verset 16 où il dit « Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi je vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure afin que afin que ce que vous demandez au Père en mon nom, il vous le donne. Et c'est toute cette section, c'est vraiment cela, demeurer en Dieu et pour porter du fruit. Et même au verset 10, il dit, verset 8, il dit, si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Donc ici, on peut noter que sur votre papier, Jésus veut souligner, il veut souligner quoi? Oui, le lien fort, vous pouvez mettre comme ça, moi j'avais mis l'attachement, mais le lien c'est tout aussi bien, le lien fort ou l'attachement fort qui doit exister entre lui et le disciple. Il y a un attachement qui doit exister entre lui et le disciple ici. Alors, il dit « Demeurez en moi et je demeurerai en vous ». Alors, les gens sont un petit peu divisés là-dessus, parce que parfois, selon la Bible que vous avez, c'est traduit pas tout à fait « Demeurez en moi et je demeurerai en vous ». Parfois, on peut considérer, certaines personnes disent qu'on peut considérer que la manière avec laquelle Jésus dit cela est une manière qui amène une condition. Par exemple, ça voudrait dire « Si vous demeurez en moi, alors… » Je demeurerai en vous. On peut le comprendre comme cela. Hein. On peut le comprendre aussi à la manière d'une comparaison, c'est-à-dire demeurez en moi comme moi je demeure en vous. Et par exemple, la traduction Parole de vie ou la Nouvelle Bible Seconde traduit comme ça. Elle dit, par exemple, Parole de vie dit restez attachés à moi comme je reste attaché à vous. Ils ont choisi ce sens-là. Et puis d'autres disent aussi qu'on peut prendre la lire avec une lecture un peu impérative, hein, comme quelque chose qu'il faut faire, mais un double impératif, où Jésus dirait « Il faut que vous demeuriez en moi et que moi je demeure en vous. » Il faut que vous demeuriez en moi, il faut que moi je demeure en vous, pour que vous portiez le fruit. Donc c'est une nécessité si vous voulez porter du fruit. Alors, ce qui est certain ici, c'est que Jésus veut vraiment souligner l'attachement fort qui doit exister entre lui et le disciple ici. Alors, que montrent ces paroles de Jésus que nous avons lues ici? Qu'est-ce que j'ai fait? Premièrement, ici, je vous ai mis un petit trou, il est impossible de porter du fruit en étant détaché de lui. On ne peut pas progresser si on n'a pas d'attachement pour Jésus-Christ. Ça, c'est quelque chose qu'il souligne fort. Deuxièmement, ici, si vous regardez le verset 5, il montre aussi qu'il y a une différence fondamentale entre Christ et les disciples. Il y a une différence fondamentale entre Christ et les disciples. Quelle est cette différence? Qu'est-ce qui montre qu'il y a cette différence? Qu'est-ce qu'il dit au verset 5, début du verset 5? Il dit quoi? Je suis le cep et vous êtes les sarments. D'accord? Ça veut dire, c'est comme si quelqu'un dit, toi c'est toi, moi c'est moi. D'accord? Donc, il dit, vous êtes les cep, moi je suis le sarment. C'est pas la même chose, le cep et le sarment. Quelle est la différence entre le cep et le sarment? Le sarment dépend du cep. Le sarment n'a pas la vie en lui-même. Il reçoit sa vie du cep. Et Jésus dit, moi j'ai la vie en moi-même. Je la donne à qui je veux. Personne ne me l'ôte, personne ne me la prend. Je la donne, j'ai le pouvoir de la donner, le pouvoir de la reprendre. Et donc, il dit, quelque part, à moins que le sarment ne reste attaché au cep, le sarment n'est qu'un bois mort, hein. C'est un bois sec, tout simplement, hein. Et donc, c'est vraiment important pour lui de souligner cela. Et le chrétien, n'est pas celui qui se réclame d'avoir une expérience simplement avec une expérience lointaine avec Christ, hein, mais c'est celui qui vit une relation constante avec Jésus-Christ, qui demeure dans cette relation constante, qui reste attaché à lui. C'est ça qu'un vrai croyant. Et c'est comme cela seulement qu'il peut recevoir la vie. Autrement, ça n'est pas possible. Troisièmement, ici, le fruit, ce que Jésus montre ici aussi, c'est que le fruit est la marque infaillible du vrai chrétien. Okay. Il y a des gens qui disent, moi je suis chrétien, je n'ai pas abandonné, d'accord, je ne vais plus à l'église, je ne fais plus ceci, je ne fais plus cela, mais je n'ai pas abandonné le Seigneur. Eh bien, je crois que ce que Jésus montre dans ce passage aussi, nous voyons plutôt, c'est pas moi que je le crois, mais nous voyons que ce que Jésus montre dans ce passage, c'est que un chrétien sans fruit, ça n'est pas... Ça n'existe pas. Le fruit peut être petit, le fruit peut être faible, il peut tailler pour émonder, mais il y a des choses qui se produisent et ça augmente. D'accord? Il peut passer par des moments de creux, des moments où il est, ça ne pousse pas trop, parce que c'est le moment où il faut émonder. Quand on émonde des fois, ben, il n'y a pas forcément du fruit tout de suite, donc il faut attendre un petit peu. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de vie. Ça veut dire qu'il y a un travail qui est en train de se faire, un processus, hein, qui est en train de se faire. Je me rappelle toujours de cette image de Jean-Pierre, hein, quand j'avais planté mon gazon, et puis je disais toujours que quand j'ai lancé les premiers grains là, puis tous les jours je vais regarder la surface du sol pour voir si ça pousse. Et il disait, on ne voit rien. Et après on peut se dire, mais il se passe rien, j'ai tout raté, il faut tout recommencer. Il dit, mais en dessous, il y a quelque chose qui se passe, il y a une vie qui bouillonne, hein. Et puis un jour, hop, ça apparaît. Et c'est comme ça aussi pour le croyant. Ça ne veut pas dire que c'est pas parce qu'il y a des moments de creux, des moments où on voit moins de choses, que voilà, il est plus au Seigneur ou c'est pas un vrai chrétien. C'est pas à nous de juger cela, d'accord? Mais un enfant de Dieu, il y aura toujours une vie qui produit quelque chose et un fruit qui va apparaître tôt ou tard, qui va se développer jusqu'à devenir. Il va se développer jusqu'à devenir fructueux à la gloire de Dieu. Donc le fruit, c'est vraiment la marque infaillible du chrétien. Jésus dit, celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Le Père travaille à émonder, afin que le disciple porte plus de fruits. Est-ce que Dieu échoue? Non. Donc s'il travaille pour émonder, pour qu'il porte du fruit, il portera du fruit. Il portera du fruit, le temps que Dieu aura prévu pour cela. Parce que Dieu n'échoue pas. Matthieu 7, vous rappelez dans le sermon sur la montagne, Jésus dit comment on reconnaît les faux prophètes. Rappelez-vous ce qu'il dit? Il dit, alors on va regarder ce passage très rapidement. Le temps presse, mais on va regarder ce passage très rapidement. Matthieu chapitre 7. À partir du verset 15, quoi, Matthieu chapitre 7, à partir du verset 15, je vais lire, il dit, « Gardez-vous des faux prophètes, ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. » Alors il dit, « Vous les reconnaîtrez, non pas à leur habit, parce qu'ils sont bien déguisés, vous n'allez pas pouvoir les reconnaître si vous regardez à comment ils sont habillés, comment ils parlent, comment ils prêchent, etc. Vous n'allez rien voir. » Mais il dit, vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Cueille-t-on des raisins sur des épines ou des figues sur des chardons? Et il dit qu'il y a là un principe qui fait que un arbre ne peut porter que le fruit qui correspond à sa nature. Et même si à l'extérieur, un faux prophète peut tromper les gens, il y a dans la vie des choses qui ne vont pas tromper, qui seront des signes, parce qu'il ne peut pas faire autrement. C'est sa nature. D'accord. Et donc il dit ici, on ne cueille pas donc des figues sur des chardons. Tout bon arbre porte de bons fruits, mais le mauvais arbre porte de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits, et un mauvais arbre ne peut porter de bons fruits. Tout arbre qui ne porte pas de fruits, de bons fruits, est coupé et jeté au feu. La même image que le sarment, hein, qui est coupé, qui est jeté. Vous voyez ici, hein, il dit donc, c'est à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Et c'est le même principe pour le croyant, celui qui se dit croyant. C'est à son fruit qu'on va aussi le reconnaître. Et c'est pour ça que Jésus dit, ici dans le passage que nous avons lu, que si vous demeurez dans ma parole, que mes paroles demeurent en vous, vous allez porter beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Je n'ai pas terminé, chef et sœur, mais je vais m'arrêter ici parce que le temps est arrivé. On continuera une prochaine fois, parce que nous voulons peut-être prendre plus de temps pour regarder ce que veut dire demeurer en Christ. Hein. Parce que Jésus explique un peu dans les versets qui suivent ce que cela souligne. En tout cas, que le Seigneur nous aide à considérer ces choses. Il est le cep, et nous sommes les sarments. Je termine avec la lecture du psaume, juste parce que les hommes l'ont lu, mais nous, j'aimerais qu'on le lise, le psaume 80, et les dames qui ont bien étudié les psaumes sont incollables là-dessus. Mais ce psaume est très intéressant parce qu'il commence d'une manière, il termine par une autre. Ici. Au chef des chantres, sur les lys, psaume d'Azaph, prête l'oreille, berger d'Israël, toi qui conduis Joseph comme un troupeau, parais dans ta splendeur, toi qui es assis sur les chérubins, devant Éphraïm, Benjamin et Manassé. Réveille ta force et viens à notre secours. Ô Dieu, relève-nous, fais briller ta face et nous serons sauvés. Éternel Dieu des armées, jusqu'à quand t'irriteras-tu contre la prière de ton peuple? Tu les nourris d'un pain de larmes, tu les abreuves de larmes à pleine mesure. Tu fais de nous un objet de discorde pour nos voisins et nos ennemis se raillent de nous. Dieu des armées, relève-nous, fais briller ta face et nous serons sauvés. Tu avais arraché de l'Égypte une vigne. Quelle était cette vigne arrachée d'Égypte? Israël. Tu avais arraché une vigne, tu as chassé les nations et tu l'as plantée. Plantée en Canaan, en chassant des nations. Il dit, tu as fait place devant elle. Elle a jeté ses racines et rempli la terre. Les montagnes étaient couvertes de son ombre et ses rameaux étaient comme des cèdres. Elle étendait ses branches jusqu'à la mer et ses rejetons jusqu'au fleuve. Pourquoi as-tu rompu ses clôtures? Ésaïe chapitre 5 dit qu'elle avait renversé, rappelé les clôtures, etc. Donc, dit pourquoi as-tu rompu ses clôtures de sorte que les passants la dépouillent, les sangliers de la forêt la rongent et les bêtes des champs en font leur pâture? Dieu des armées, reviens donc, regarde du haut des cieux et vois, considère cette vigne. Protège ce que ta droite a planté et le fils que tu t'es choisi. Point de suspension. un truc qui change, elle est brûlée par le feu. Elle est coupée. Ils périssent devant ta face, menaçante. Que ta main soit sur l'homme de ta droite, sur le fils de l'homme que tu t'es choisi. C'est qui le fils de l'homme? C'est Jésus-Christ, le fils de l'homme que tu t'es choisi. Et nous ne nous éloignerons plus de toi. Fais-nous revivre et nous invoquerons ton nom. Éternel, Dieu des armées, relève-nous, fais briller ta face et nous serons sauvés. Est-ce que vous voyez le glissement de ce psaume qui part de la vigne Israël et qui termine vers celui qui est le vrai cep? Et le psalmiste dit ici, juste un verset, il dit que ta main soit sur l'homme de ta droite, il dit sur le fils de l'homme que tu t'es choisi, et nous ne nous éloignerons plus de toi. Nous allons demeurer vraiment avec ce cep-là, cette vigne-là. Jésus est le vrai cep. Nous te remercions, Seigneur, pour ta parole, et nous te demandons que tu nous aides encore par ton Esprit Saint à saisir davantage ces choses, que nous puissions nous réjouir, ces paroles puissent faire la joie et l'allégresse de notre cœur. Donne-nous de demeurer attachés à toi, de ne pas chercher ailleurs ce que nous ne pouvons pas trouver. Seigneur, aide-nous, garde-nous, fortifie-nous en ton nom et pour ta seule gloire, et que nous puissions porter du fruit qui te glorifie. Amen.